Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est dans le cadre cosy de son chalet en bois que Véro nous reçoit pour une conversation au long cours. Bonjour, donc, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Eh bien, moi, c'est Véro, Véronique Fanjot, mais en fait, tout le monde connaît Véro du Yadou, c'est plus...
Voilà. C'est plus
cool. Donc, j'habite sur la ferme de Mourez à Peu et Coufouleux, au fin fond de l'Aveyron, là-bas, après Camarès, en allant vers la Cône.
D'accord, sur la commune de Peu et Coufouleux.
C'est sur la commune de Peu et Coufouleux, oui.
Donc, tu es Véro du Yadou. Qu'est-ce que tu produis, donc ?
Eh bien...
Du Yadou,
mais le Yadou, qu'est-ce que c'est ? Ben, le Yadou, c'est le lait de mes vaches que j'ai décidé de transformer en yaourt. Mais c'était du yaourt que je souhaitais faire doux. Donc c'est devenu le Yadou. Mmh. Donc j'ai travaillé la technologie comme ça. Et donc je me suis installée en association avec Jean-Marc et Bruno qui avaient déjà la ferme. Je me suis installée avec eux en 2003. Et donc on a décidé de transformer. Moi j'étais bien branchée là-dessus. Bon, à part que je n'ai pas du tout fait ce que j'avais envie de faire. J'étais partie dans l'idée de faire des grosses tomes de fromage comme les tomes des Pyrénées ou je ne sais pas quoi. Mais des bonnes, parce que moi, j'adore le fromage. Et en 2003, j'ai démarré la fabrication des yaourts. Alors pourquoi ça a attendu 3 ans ? Mais tout simplement parce qu'ici, on fait tout nous-mêmes. Donc, quand Jean-Marc s'était installé, il avait pour projet de faire la transformation fromagère, mais ça n'avait pas encore abouti. Parce qu'il faut le temps de tout faire. Hein. Donc, on a besoin d'une étable, on la construit. On a besoin d'un hangar, on la construit. On a besoin d'une maison, on la construit.
D'accord, petit à petit.
Le tracteur tombe en panne, on le répare. voilà. Donc, en fait, il ne faut pas être trop pressé. Mais ça a du bon aussi de ne pas être trop pressé. Parce que, du coup, eh ben, mon idée de faire du fromage, eh ben, ça a évolué sans que je m'en rende compte. Parce que, tout simplement, j'étais entre 2000 et 2003, je venais de temps en temps ici. Il se trouve que souvent, je mangeais là, chez ma belle-mère, et puis on mangeait des yaourts de commerce, et je trouvais ça quand même un peu bizarre d'avoir du lait à la ferme et de manger des yaourts de commerce. Là. Je me disais quand même, en plus, on avait le lait en bio, qu'on ne valorisait pas en bio, parce qu'on est en bio depuis 1994. C'est entre 2000 et 2003, et donc on a construit la laiterie, que Jean-Marc avait l'intention de faire quand il s'est installé en 1990. Donc je m'étais mis à faire mes yaourts moi-même pour amener ici, avec le lait de la ferme. Et pour les trimballer, au lieu de les faire dans des petits pots comme tout le monde fait des yaourts, comme je n'habitais pas sur place, je les faisais chez moi dans des bouteilles et je les amenais ici pour manger à midi. Et c'est comme ça que le yaourt est né dans des grands contenants. Mmh. Alors moi, j'ai cru que j'inventais quelque chose de nouveau. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, dans les pays du Nord, ils ont ça depuis très longtemps, le yaourt en grand volume, que ce soit en Hollande, que ce soit en Allemagne. Mais en fait, c'est les clients qui m'ont appris ça. Mais au début, moi, quand j'ai lancé mon yaourt, au début, il n'était même pas en pot, il était dans des bouteilles de 1 litre, de 2 millilitres, ce qui faisait faire des cheveux blancs à mes clients qui n'arrivaient pas à le sortir de la bouteille. Alors j'avais fait des petits papiers pour expliquer aux gens comment il fallait faire pour le sortir de la bouteille. Après, ça a évolué, donc j'ai fait une gamme de 5 yaourts. Et l'année d'après, j'ai dit, bon, on ne peut pas faire que du yaourt. Je me suis dit, je vais faire du fromage blanc aussi. Et donc, ça m'a permis d'étoffer un peu ma gamme, ce qui est important, parce que quand on fait de la vente directe, si tu n'as qu'un seul produit, après, ça peut lasser les gens. Quoi. Donc, s'ils ont la possibilité une fois d'acheter un, une fois d'acheter l'autre, donc ça m'a conforté un peu dans mon circuit de vente directe. Et puis après, l'année d'après, j'ai dû inventer le fromage à l'ail et à la coriandre, le tastidou.
Quand tu t'es mis à faire des yadous, assez vite ça a marché ? Assez vite, tu as trouvé ta clientèle ?
Oui, assez. Enfin bon, c'est pas évident. Non, je savais pas du tout comment ça allait faire, je me rappellerai toujours. J'ai vendu mon premier yaourt à la première foire Alternabio de Sainte-Afrique. Donc c'était le 6 avril 2003. Je m'étais engagée à y aller. Je me rappelle ceux qui organisaient la foire et bon... Ils me connaissaient, mais de par ailleurs, puisque je vendais rien du tout à l'époque. Mais il y avait une dame qui qui m'avait contacté, il m'a dit, est-ce que tu peux venir à la foire et tout ça. J'ai dit, oui, oui, c'est bon. Mais en fait, l'atelier n'avançait pas. Et plus la date arrivait, plus je me disais, mais on n'aura jamais de yaourt prêt pour cette foire. Alors, quand on y est allé, c'était vraiment à l'arrache. On a fabriqué la semaine d'avant. J'avais même pas l'étiquetteuse pour mettre les dates. Je suis allée l'emprunter chez un copain qui avait un commerce Camarès pour que je puisse mettre les dates sur mes pots de yaourt.
Est-ce que ça a vite marché, trouver tes clients?
Alors, bon, c'est toujours pareil. Moi, je pense que... Oui, on trouve des clients, mais après, c'est toute une évolution. Au début, c'est les copains, c'est la famille, c'est tout ça. Et après, il faut que ce soit le produit qui fasse sa place tout seul.
Que le bouche à oreille joue, quoi.
De toute façon, si tu fais un produit qui n'est pas bon, qui ne convient pas au goût des gens, je ne sais pas si on peut dire pas bon, mais enfin, en tout cas, si tu ne maîtrises pas ton produit, tu seras vite sur le carreau. Parce que bon, les copains, ils sont gentils un moment, ou la famille, mais ça ne le fera pas, quoi. Et en même temps, les clients, ils se renouvellent, quoi. Il y en a qui, ça déménage, ça, tout ça. Moi, je vois l'évolution. Ça fait 17 ans maintenant. Et ben, il y a des gens que tu les vois plus. Puis d'un coup, tu les vois 4 ou 5 ans après. Ils viennent et disent, ah, j'ai essayé de revenir dans le coin parce que je me rappelle de vos yaourts. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont partis la veille. Et puis, en fait, ça fait 5 ans qu'ils ont déménagé. Je ne me rappelais plus.
Ça passe vite.
Voilà, c'est ça, ouais. Et ça, oui, ça, voilà, ça, petit à petit, il a fait sa place. Et quand même, bon...
Et alors, comment tu les coules, ta marchandise? Auprès de qui tu vends? Tu passes par des magasins, tu fais la vente directe, les marchés?
Non, mon idée au départ, c'était évidemment de ne pas reproduire le schéma, d'aller partir dans la grande distribution ou je ne sais pas quoi. Ça, c'était bien évident. Pour moi, c'était de la vente directe d'emblée. Ça me paraissait sûr. Ensuite, c'était du local, vu qu'en plus, j'ai mis en place un système de consigne de mes pots. Donc, c'est hors de question de dépasser un certain périmètre. Et je vends que sur le marché de Sainte-Afrique, ou alors les épiceries locales, alors vraiment local, c'est-à-dire Brusque, Camarès, l'épicerie d'El País à Sainte-Afrique, la Biocoop, et les deux Biocoop de Millau. Et à Millau, il y a un magasin producteur fermier dont je fais partie depuis le début, que j'ai aidé à monter, enfin que j'ai aidé. Je faisais partie de l'équipe qui l'a monté au départ, qui s'appelle le marché paysan.
Ouais, et alors, toi, tu as grandi là-dedans, dans l'agriculture? C'est quelque chose que tu as mûri tôt?
Oui, alors en fait, moi, je suis fille de paysan. C'est-à-dire, en fait, j'étais sur la ferme à côté, à 3 km d'ici. En fait, je me suis installée dans l'agriculture en 86. Ouais, avec mes frères, je me suis installée sur une ferme qui faisait des vaches laitières. Et je suis restée 15 ans avec eux. Voilà. Et en fait, comme j'étais aussi avec Jean-Marc dans ma vie privée, au bout de quelques temps, je me suis dit que quand même, j'avais bien envie d'une autre forme d'agriculture. Parce que moi, j'ai fait un parcours classique. J'ai fait un bac général et des bricoles un peu. J'ai traîné avant d'arriver à faire un BTS agricole. Donc j'ai fait un BTS agricole. Et puis
tu
après,
l'as fait où, ton BTS?
À Rodez, à La Roque. Après, je me suis allée faire un petit tour au Canada, là, pendant un an. Puis je suis revenue. Et je me suis installée avec mes frères au retour du Canada. En fait, après, j'étais donc à fond dans l'agriculture, on va dire... j'allais dire intensive, c'est pas intensif, parce qu'on n'est quand même pas dans la bosse. Mais enfin, on était dans l'agriculture de pointe, quoi. Enfin... Ouais. Moi, j'ai été vraiment dans le moule traditionnel de la formation agricole, c'est-à-dire conventionnelle, la sélection, essayer de faire pousser les choses le plus vite possible.
L'hypermécanisation, tout ça.
Oui, enfin, la mécanisation, c'est pas interdit, c'est pas un gros mot.
Il mécanise tout.
Petit à petit, en fait, j'avais les deux aspects de le soir, je voyais comment on pouvait travailler d'une certaine façon. Moi, j'avais mon autre vue de l'autre côté. Au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression que j'allais à l'usine le matin. J'allais faire quelque chose qui ne me convenait pas au fond de moi-même. Donc, je me suis dit, je vais tomber vraiment dans le... j'avais peur que ça me sape le moral sur le long terme. J'ai dit, il faut vraiment harmoniser tout ça. Ouais,
faire quelque chose qui te ressemble davantage.
Voilà, ouais. Donc, j'ai décidé d'arrêter, d'arrêter chez mes frères. Donc, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre qui était par là, qui était intéressé. Moi, je suis allée faire autre chose parce que la laiterie n'était pas finie. Et je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas m'installer comme ça. Donc, je suis allée faire un petit boulot. Et puis, voilà, en 2003, j'ai démarré.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu en vis bien de l'exploitation? Est-ce que ton métier, tu peux réparer la chaudière quand elle tombe en panne?
Oui.
Tu peux partir en vacances?
Oui, aujourd'hui, oui, on va dire que ça s'est bien amélioré. Voilà,
voilà, ça n'a pas toujours été comme ça, j'imagine.
Voilà, non, ça n'a pas été toujours comme ça. Mais bon, en même temps, c'était peut-être les meilleures années, ou presque. Non, j'exagère un peu, mais là, maintenant, c'est vrai que ça tourne bien. Voilà, je suis bien contente.
Oui, puis ta réputation te précède, quelque part.
Voilà, oui, non, mais c'est vrai que là, maintenant, je n'ai plus à me fatiguer de ça. Je suis plutôt en train de lever le pied, on va dire, de refuser quand on me demande. Enfin, de toute façon, j'ai souvent refusé parce qu'on m'a eu demandé à Rodez, à Albi, à Montpellier, ou je ne sais pas quoi, des gens qui connaissent le yaourt, qui d'un coup disent « Mais vous ne voulez pas nous livrer ?» Mais moi, ce n'est pas du tout mon plan de m'éloigner d'ici, quoi.
Et alors, ta ferme, c'est à peu près combien d'hectares, combien d'animaux ?
Alors nous, on a toujours un petit troupeau. On a même diminué par rapport aux années où on ne transformait pas les yaourts. Parce qu'à l'époque, on avait plus de vaches pour faire plus de lait, mais qu'on ne valorisait pas. Mais par contre, on n'était pas du tout autonome. On était obligé d'acheter du foin, du grain, de la paille, de tout. Et en fait, on achetait tout en bio, puisqu'on avait le troupeau en bio, et on ne valorisait même pas en bio. Ouais. Donc en fait, là, par contre, ce n'était pas le bon plan du tout.
Vous avez perdu des sous, là.
On a gardé notre âme, hein, puisqu'on a continué à faire du bio malgré tout. Mais en tout cas, on a révisé complètement l'équilibre de l'exploitation. On a dit, il faut diminuer le troupeau. Donc, on avait presque 40 vaches, là, on en a 25. Plus le renouvellement, mais le renouvellement, comme les vaches, on les garde quand même assez longtemps. On a, entre 4 et 6 vaches, 6 génisses de renouvellement par an, quoi, à peu près. Ben, en fait, on prend ce qui vient. Quoi. Cette année, on n'en a que deux. Il faut faire avec. Hein. Ah. Mais on n'a eu que des mâles. Donc, voilà.
Ah. Et le nombre d'hectares, ça représente quoi ?
Alors, bon, comme tu peux le voir, ça pêche ici.
Oui, oui, des
hectares, ça dépend ce qu'on appelle. Mais bon,
des hectares de pré, quoi, de pâture.
Alors, des hectares SAU, il y a environ 80 hectares, mais il y en a 40 qui ne sont pas labourables. C'est des parcours en clôture, on y met les génisses l'été, ou les vaches taries, enfin voilà, elles vont au camping un peu, là, et voilà. Et après, des hectares labourables, on a une petite quarantaine.
Et alors, les petites questions philosophiques, ça y est, elles arrivent.
Aïe.
Est-ce que tu conseillerais ce métier, toi ?
Ah oui.
Ah,
ah oui. Ah,
ben, franchement, oui.
Ah oui, franchement, oui. Ah ben moi... c'est un métier où, du début à la fin, tu vois ce que tu fais, quoi. Tout ce que tu fais a un sens. Enfin, tu donnes sens à tous les gestes de ta journée, c'est pas rébarbatif, c'est très varié, c'est...
Puis, ça fait appel à beaucoup de compétences aussi.
Ah voilà, ouais. Bon, alors après, il faut savoir tout faire, c'est ça. Alors c'est ça l'avantage d'être nombreux aussi. Parce que quand je dis que j'aimerais bien que ça profite à plusieurs, parce qu'il y a de la place pour faire plein de trucs, c'est à ça que je pense, c'est qu'en fait, on peut pas être bon en tout, c'est très compliqué. Des gens comme Jean-Marc et Bruno qui savent à peu près tout faire, j'en connais pas. Pas tant que ça. Bon, et donc c'est vrai que plus on est de fous, plus on peut mettre ensemble des compétences, et voilà. Et voilà, c'est pas rébarbatif. Mmh. Il faut savoir faire du ménage. Je dis ça parce qu'à la laiterie, c'est très important. Ouais. Mais enfin, voilà, il faut...
Faire du ménage, aller démarcher pour trouver des clients, voilà, faire la compta, etc.
Tout ça. Mais moi, je vois que j'ai mis en place mon produit, j'ai même inventé l'étiquette, j'ai réfléchi au contenant, au support, j'ai prospecté pour trouver la caisse qui était adaptée à mes peaux, parce qu'il fallait que ça soit d'une telle façon et pas d'une autre. Enfin, bref. En fait, c'est rigolo, quoi. Enfin, ouais. Y a plein de choses à faire, quoi. Et puis, bon... Je ne sais pas si tu vois le cadre de vie, mais moi, il y en a qui parlent de confinement. Moi, je n'ai rien vu. De cette année, je n'ai rien vu d'anormal par rapport à l'année d'avant. Quoi. Ouais. Ma vie,
voilà. On était au bout du monde un peu comme ça, ça n'a pas changé grand-chose.
Déjà, parce qu'on a la chance d'avoir le privilège en travaillant d'avoir le droit de sortir. Mais en même temps, voilà, on est tout seul, mais c'est le paradis sur Terre, quoi, en fait. Enfin, pour moi, quoi. Après, il y a des gens, ils te demandent, quand ils viennent ici, ils te disent, mais vous vous ennuyez pas, et comment vous faites l'hiver, et...
Ouh, si vous saviez le travail que j'ai.
Ah non, mais il y a plein de gens qui traversent la ferme l'été, qui viennent de la ville, qui se demandent comment on peut vivre ici.
Ah, bien sûr.
Ça les épate de voir...
Alors que toi, peut-être, tu te dis l'inverse. Comment ils font pour vivre en ville, en centre-ville ?
Ah ben, je fais plus que me le dire. Mais à une époque, on y allait à peu près tous les 5 ou 6 ans. On y allait, on se faisait notre semaine à Paris. Quand on revenait, on disait, ça y est, on est vaccinés pour 5 ans. Là, c'est bon, on a fait notre dose. On a fait notre dose.
Une petite question. Alors là, des fois, quand je la pose, il y a des gens qui me regardent avec des yeux comme ça. Est-ce que toi, tu as une idée de ce que sera, vu que tu connais bien le milieu agricole, de ce que ce sera ou pourrait être l'agriculture dans 10 ou 20 ans ?
Eh bien, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très pessimiste. Mais alors, très, très pessimiste.
Aïe.
Je l'ai toujours été. L'avenir me paraît bien noir. Alors, bon.
T'es une pessimiste qui rigole quand même.
Eh bien, ouais. Mais bon, après, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas la situation d'aujourd'hui qui me rend comme ça. Moi, j'ai toujours vu les choses plutôt du mauvais côté que du bon.
Et c'est quoi qui te fait voir les choses en noir, en
fait ? Bon, après, tu me parles de l'agriculture.
Oui, l'agriculture.
On a beau voir des gens qui se débattent pour défendre l'agriculture écolo, bio,
saine,
enfin, pour revenir en marche arrière de tous les excès qu'on a connus depuis les années 50, enfin, depuis que la chimie est arrivée parmi nous. On a beau se dire qu'il y a beaucoup de gens qui se révoltent contre ces dérapages, je ne suis pas certaine qu'on aille dans le bon sens quand même. Alors, on est dans une région où on a l'impression que tout va mieux, parce qu'il y a plein de petits... Il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'installer par ici, justement parce que c'est un pays paumé, où les grands investisseurs agricoles ne vont pas être intéressés de venir. Mais si tu vas dans les grandes régions céréalières,
les grandes plaines,
mais ouais. Tu vas dans l'Auragais, Toulouse, et puis après tu montes au-dessus de la Loire, et bien, moi je pense que là, c'est les fonds d'investissement qui vont se réappliquer bientôt, quoi, hein. De toute façon, tous ces trucs-là, ça nous pend au nez, parce que de toute façon, même ici, les structures agricoles sont devenues tellement énormes, même si tu veux laisser à tes enfants, ça devient très compliqué, quoi. Et tu vois, on n'est pas du tout sûr d'avoir des repreneurs, mais c'est beaucoup moins difficile de céder une place comme la nôtre, qui, à la limite, n'est pas... Ben, on doit pouvoir arriver à trouver des gens et à combiner une reprise en faisant des concessions et
ouais,
tout ça.
Ouais.
Mais il y a des fermes, elles ne peuvent pas, parce que de toute façon, elles sont surendettées jusqu'à la fin de, au moins jusqu'à leur retraite. Et donc, en fait, tu vends ton outil d'exploitation avec les prêts qui vont avec, les dettes et tout ça.
Surtout que la PAC, par exemple, pousse un peu vers le phénomène d'agrandissement.
Oui, ça, c'est sûr que si on mettait d'autres normes d'attribution des
subventions.
Des subventions. Et ceux qui s'installent actuellement à l'agriculture et qui sont hors cadre, ils s'installent sur des toutes petites parcelles, ils n'ont même pas droit à une aide, quoi. Donc, ils ont 3 hectares de maraîchage ou de fruitier, et ils galèrent comme des malheureux, et ils ont droit à rien, alors qu'ils travaillent comme des forcenés, quoi.
Ouais. Donc, tu verrais plutôt ça, le phénomène d'agrandissement risque de continuer. Et c'est des fonds de pension, c'est des gens très riches, en fait, qui vont s'accaparer le vivant.
Alors bon, là, on raisonne
globalement. Oui, en absolu, hein, oui.
Oui, moi, je pense que... Allez, soyons pessimistes jusqu'au bout. Hein. Je ne pense pas que ça aille en s'améliorant, non, franchement. Ouais. De toute façon, la richesse maintenant que tout le monde vise, et ça se voit partout, quoi. Je veux dire, le Chinois, il cherche à acheter des terres, mais, parce qu'eux, ils sont nombreux, mais ici, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde, quoi. Enfin, tous les gens qui ont de l'argent, ils savent que la richesse de demain, c'est l'or brun, c'est vraiment la terre, quoi. Qu'est-ce qui va manquer ? C'est à manger et à boire bientôt. L'air, déjà, c'est dur.
L'air, ouais, ça va être compliqué. Bientôt, ils vont rationner ça.
Les gens qui ont de l'argent, ils vont se débrouiller pour s'accaparer les terres. Alors, comme je dis, ici, on a le privilège d'être un pays hostile. Donc, ils vont arriver chez nous beaucoup plus tard.
Grâce au relief, quoi.
Voilà. Ils vont arriver beaucoup plus tard chez nous, mais peut-être ils arriveront un jour. Hein.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Aspect de l'agriculture ou de ton métier qu'on n'a pas abordé ?
Moi, je trouve que l'agriculture, c'est au moins... Pas l'agriculture, mais enfin, le métier que je fais me permet d'avoir plein de contacts avec plein de gens, en fait. Et je trouve que ça, c'est génial aussi, dans le fait que ça soit à travers la nécessité de mon travail ou à travers le fait que ça me laisse l'organisation de mon travail comme je veux. Si je travaille le dimanche, je peux aussi prendre mon lundi. Après, il faut être très vigilant parce qu'en fait, on peut très vite se faire prendre par le truc. Bon, moi, si je n'avais pas su dire... me mettre des limites, une fois que le produit a été connu, effectivement, on me demandait de partout. Donc, je veux dire, c'est pas compliqué. Je veux dire, moi, le lait, je le transforme pas tout. J'ai oublié de le dire, mais il y en a une partie qui part à la laiterie. Donc, en fait, moi, j'adapte ma fabrication à la quantité que je veux vendre. Donc, j'ai choisi mes points de vente, pas trop loin, j'ai fait tout ça. Et en fait, j'ai choisi vraiment la quantité de travail que je voulais.
Donc là, oui, effectivement. Je referme ou quoi ?
Tu peux fermer, ouais. Vas-y. Alors là, on arrive dans mon atelier. Ici, c'est le sas.
Faut que je mette des bottes ?
Non, faut aller, je vais te donner des patous bleus.
Des patous, ah oui, je vois.
Et voilà, mon entrée.
Donc, nous entrons dans la laiterie. C'est là où tu transformes ?
Voilà, c'est là où je transforme.
Donc, deux grosses cuves en inox.
Alors attends, au plus dur là.
Oui,
là ce matin, tu vois, j'ai fabriqué des yaourts, ils sont dans les tubes. Yaourt à la chicorée.
À la chicorée, tiens ouais. Donc. Là, il fait chaud là-dedans.
Eh oui, c'est à 48 degrés.
48 degrés.
43, enfin, là, ça dépend. Enfin, ça varie entre 44 et 48 degrés.
D'accord.
Je le mets en pot. Je le sors de mon pasteurisateur, je le mets en pot. Ouais. Et je le mets dans l'étuve et ça y reste 2 heures de plus. Donc ça fait 2 heures dans le pasteurisateur à 48 degrés aussi. Ouais. 46 plutôt. Et 2 heures dans l'étuve. D'accord. Et là, je viens pour transformer cette étude en froid. C'est ce que je vais faire maintenant. Là, je vais arrêter.
La même pièce, ça te fait le chaud et le froid.
Alors, ouais.
Que le même.
On fait ça, mais c'est beaucoup mieux. D'une part, parce que tant que les yaourts sont chauds, il ne faut pas trop les bouger et les déplacer. C'est pas bon. Sinon, après, ça va les scinder en deux. Ça va faire du petit lait dessus. Ça va passer, tu les touches quand ils sont chauds. Donc, il faut qu'ils refroidissent sur place. Et ensuite, il y a quand même une autre chose qui est importante, c'est de ne pas aller mettre tous ces yaourts qui sont chauds, parce qu'il y en a quand même pas mal, dans la chambre froide directement. Parce que là-bas, c'est à 2 degrés. Et si tu réchauffes régulièrement les yaourts qui sont déjà faits, ça, au point de vue conservation, c'est pas bon pour ceux qui sont déjà faits.
Et ceux-là donc, que tu as fabriqués aujourd'hui, ils seront vendus quand à peu près?
Eh bien, écoute, demain je vais au marché. Comme j'en ai pas beaucoup en stock en chicorée, eh ben, certains de ceux-là ils vont partir demain.
D'accord.
Voilà. Je mets à peu près un mois sur les yaourts. Avant, je mettais moins, mais bon, comme j'ai fait des analyses à 70 jours, c'est nickel. J'ai des copains qui m'envoient des textos, des mails en me disant « Oh là là, ce coup-ci, il avait 5 mois, ton yaourt. » Donc, ça tient bien, ça, ouais. J'en suis sûre. Mais j'ai fait des analyses officielles à 70 jours, ça ne bouge pas. Donc, je mets un mois. Avant, je mettais 24 jours, mais bon, je suis passée à moi.
Une fois qu'il est ouvert, il faut le consommer rapidement.
Une fois ouvert, une semaine. Une semaine sans aucun problème. Quoi. Ouais. Après, il ne faut pas trop traîner non plus parce qu'il ne s'arrange pas. Quoi.
Oui, donc quand même un litre en une semaine, t'as largement le temps de le tomber. Quoi.
C'est même pas un litre parce que les pots, ils font 700 grammes.
700, d'accord.
Oui, là, en fait, c'est parce que j'ai un copain qui le prend en litre. Il a gardé l'habitude du début où je faisais des bouteilles. Et comme c'est un copain avec qui j'étais à l'école, en terminale, ouais. C'est un privilégié.
Tu lui fais les faveurs.
Il va se reconnaître. Voilà, et là c'est les stocks.
Et là c'est les
yaourts. Voilà, donc tu vois toutes les variétés différentes. Quoi.
D'accord.
Voilà. Bon après, on a même fabriqué le pasteurisateur.
C'est donc, vous qui... Ah ouais.
Ouais.
Oh là, en fait, mais l'ouvrage hein.
Alors non, il faut que je t'explique quand même. C'est pas tout à fait... on a récupéré cette cuve. Ah. Enfin, jamais récupéré cette cuve chez un ferrailleur. Qui l'a destiné à la presse, sans doute, ou je sais pas quoi, à la vanne. De toute façon, c'est en inox, donc il l'aurait vendu, je sais pas, au prix de l'inox. Ouais. Donc, il a racheté ça, mais bien avant que je décide de faire des yaourts. Mais il a vu ça chez le ferrailleur, il a dit, ça nous trottait dans la tête de transformer depuis longtemps, donc on a dit, il faudra peut-être, ça peut servir. Donc, il l'a ramené, et quand j'ai décidé de faire les yaourts, on a dit, on va le transformer en pasteurisateur. Donc, ils l'ont ouvert avec Bruno, ils ont installé dedans des résistances de machines à laver, ils ont installé ce couvercle avec l'agitateur, ils ont installé ce système électrique là, pour régler les températures, pour que ça chauffe, mais pas trop, que ça s'arrête de servir à la température.
D'accord.
Voilà. Mais tu sais, je ne voudrais pas que tu partes sans que tu vois mes vaches quand même.
Ben oui.
Ah, bon,
ah ben oui.
Allez, je t'amène voir mes vaches.
Ah, les meumeux.
Mes vachotes.
C'est quelle race?
Il y en a plein.
Il y en a plein, c'est vrai?
On a 5 races différentes.
Ah oui?
Eh ouais. L'histoire familiale est très agitée. Nous avons plusieurs races. D'ailleurs, c'est très...
Ah ouais. Voilà. Donc combien de vaches, là, il y a? Une quinzaine?
Alors, non. Là-bas, t'as les laitières.
Ouais.
En fait, tout le monde est dedans. Hein. C'est l'hiver, tout le monde est à la maison. Ouais. Donc, jusqu'à la barrière, là, tu as les laitières, celles qui ont du foin, là.
Oui.
Du bon foin, c'est les laitières. Et celles qui ont du foin moins joli, ce sont les génisses, parce que cette année, il va falloir faire ceinture un peu, les
donc,
filles.
La génisse, c'est la jeune vache.
C'est la vache qui n'a pas
qui
encore...
Qui n'a pas eu de veau.
Qui n'a pas encore eu de veau, voilà. Bon, en fait, celle-là, elle a dû en avoir. Je pense que c'est une tarie, celle-là, qui a dû rejoindre le troupeau des génisses, là. Mm-hmm. Mais sinon, là, tu as que les veaux, donc, qui ont soit 2 ans, soit 1 an.
D'accord.
Parce que le premier veau, elles le font à 3 ans. Voilà. Donc, en fait, celles qui ont 2 ans, on va les inséminer maintenant et elles vont faire leur veau dans 9 mois. Alors, c'est pas des brebis. Les vaches, c'est fécond toute l'année. Tu peux inséminer quand tu veux. Ça a un cycle de 21 jours. Tous les 21 jours, normalement, une vache, elle a des chaleurs. Donc, et alors, le but du jeu, pour nous, c'est d'étaler un maximum pour avoir du lait, pour pouvoir faire des yaourts, surtout.
Et donc, vous les inséminez, vous avez un taureau, vous allez voir un autre paysan qui a un taureau?
Pas du tout. On n'a pas de taureau parce qu'en ayant des 5 races différentes, comme je te disais, on ne peut pas avoir un taureau pour chaque race. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, on fait de l'insémination. Mais l'insémination en vache, ce n'est pas comme, enfin, c'est pas comme un brebis, entre guillemets. Bien qu'un brebis, ce n'est pas forcément non plus comme ça. Mais je veux dire, c'est des chaleurs naturelles. On ne met pas d'hormones, on ne met pas d'éponges et tout ça. Mais quand une vache est en chaleur, donc ça se voit parce qu'elle se poursuit. Donc c'est très facile à voir. Elle se poursuit et elle se chevauche. Donc,
elle simule le coït, quoi.
Oui.
Ah, d'accord.
Donc en fait, celle qui est en chaleur, au début, elle pousse les autres. Et donc elle pousse les autres et les autres s'en vont. Donc c'est là que tu te dis, c'est pas celle qui s'en va qui est en chaleur, c'est celle qui pousse. Mais après, à un moment, les autres s'intéressent à elle, elles viennent sur elle, et là, elle ne bouge pas, elle. Et à ce moment-là, on dit, bon, ben, c'est le moment d'appeler l'inséminateur. Et l'inséminateur, il vient 24 heures après, et il insémine, et normalement, c'est à peu près le bon moment pour que ça marche. Lui, il a...
Il coucou, a tout la ça. Un petit mot pour la radio, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça va passer.
Ah, j'ai souvent rêvé de faire un enregistrement de Radio Centrafrique quand la vache fait un veau et qu'elle lui parle. Ça fait, tu sais, elle l'appelle, tu sais. Et chaque fois, je me suis dit, oh, il faudrait que je l'enregistre pour Radio Centaf. Et on dirait Radio Centafrique, ça m'émeut.
Ah, ça serait pas mal, ça. Et alors, on n'en a pas parlé, mais ta relation aux vaches.
Ah, bah.
Tu les connais toutes, elles ont toutes un prénom.
Elles ont toutes un prénom et souvent un surnom.
Ouais.
Voilà. Voilà. Alors, en général, on leur donne un nom avec une lettre pour l'amener, tu sais.
D'accord.
Et bon, parce que c'est plus facile à se rappeler aussi, t'es pas obligé, hein, mais voilà. Donc ça nous permet de savoir quel âge elles ont, toutes les M sont nées la même année, tout, voilà, etc. Et on essaye, nous, pour se rappeler un peu qui est qui, de donner un nom en rapport entre la mère et la fille, quoi, tu vois.
D'accord, ouais.
Voilà, donc je sais pas, on a eu Niche et Idée Fixe, ou tu vois.
D'accord, association d'idées, d'accord. Et combien ils produisent de lait à peu près par jour? J'imagine que c'est variable, mais...
Par jour, oui, c'est variable. Bah, alors, bon, après, il faut savoir que nous, on ne pousse pas du tout. Hein, on ne les pousse pas. On ne traite qu'une fois par jour.
D'accord.
Voilà. Donc, ça peut surprendre, mais en fait, ça fait 15 ans qu'on fait ça, ou plus. Et ça fait du bien aux vaches, et à nous, surtout. Par traite, allez, on va dire, je ne sais pas, moi, ça peut varier entre 10 et 25.
D'accord.
Voilà. Et à partir 25, de... c'est quand elles viennent de veler, quoi, qu'elles ont vraiment. Ouais. Non, 25, c'est beaucoup.
Et à partir de 10 litres de lait, tu fais à peu près combien de yaourts?
Eh ben, un litre de lait égale un litre de yaourt, c'est ça l'avantage.
Ah oui. Ah.
C'est pas du fromage.
Ah bien. Tu ah oui, il y a peu de pertes, il n'y a pas de pertes, quoi.
Il n'y a pas de pertes, bon, après, il y a des pertes d'évaporation ou de je sais pas quoi, il n'y a pas de pertes, ouais. Tu jettes rien. Mais par contre, le fromage blanc, c'est moitié-moitié à peu près.
D'accord.
Et le petit lait, je le leur rends. Elles le boivent.
Elles le boivent,
regarde. Voilà.
Ben oui. Comme rien ne se perd, rien ne se crée.
Et surtout, je ne pollue pas. Sinon, il me faudrait une réserve pour étendre mon petit lait. Tandis que là, en plus, ça ne me fait pas beaucoup parce que je fais du fromage une fois par semaine à peu près, ou deux fois par semaine certaines saisons. Bon, ça fait 80 litres de petit lait. Je leur mets là. Elles le boivent, elles se régalent.
Bon, merci mesdemoiselles. Vous avez été très sages. Bon, super, merci. Tu veux autre chose
Non, pas plus. T'es ravie de te montrer mes vaches, parce que c'est quand même grâce à elles que j'arrive à faire des bons yaourts.
C'est l'outil de travail principal. D'ailleurs, c'est tes partenaires.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur les étiquettes, il y a écrit « Jama, Bruno, Véro et les vaches
». Eh oui, ça se fait à plusieurs.
Eh ouais, ouais. Et si elles n'étaient pas là, je crois.
Bon, mais c'est super, en tous les cas.
Merci.
Merci Véro de m'avoir bien accueilli.
Avec plaisir. Ouais. Tout le plaisir était pour moi.
Ah. Mille merci à Véro pour la chaleur de son accueil. Parole rurale est diffusée tous les mardis à 8h10, les jeudis à 18h et les dimanches à 14h. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.